RCF.
L'échappée belle en musique. RCF.
L'échappée belle en direct jusqu'à 15h. Nous allons parler ensemble d'un peintre du XXe siècle, arrière-petit-fils d'un grand écrivain et poète français. Mais alors, qui est ce peintre et pourquoi s'intéresse-t-on à lui? Réponse pendant une heure et en musique avec notre invité.
RCF. L'échappée belle en musique. Présenté par Melchior Gormand.
Bonjour Jacques Nouvier.
Bonjour Melchior, bonjour Henri.
Bonjour.
Notre invité, Henri Gourdin.
Voilà. Alors, c'est avec une grande joie qu'on retrouve Henri Gourdin. On l'avait reçu il y a trois ans, je crois, à propos de ses biographies de Pablo Casals et de Guilhermina Sugia, deux immenses violoncellistes. Et puis, je pense que Henri, vous devez aimer le violoncelle quand même, parce que vous avez consacré aussi, en plus, deux romans à cet instrument, ou disons à des personnages qui jouent de cet instrument. Alors, vous allez nous parler d'un peintre, mais on va laisser encore un peu le suspense. Et puisqu'on vient d'évoquer Pablo Casals, on va évoquer Bach, les suites de Bach. Vous savez que Pablo Casals jouait tous les jours une suite de Bach, et on va faire un peu comme lui, on va écouter un extrait d'une suite de Bach par Pablo Casals, bien sûr.
Voilà, nous écoutions la sarabande de la première suite pour violoncelle seul, BWV 1007 de Jean-Sébastien Bach, joué par Pablo Casals lui-même. C'est un enregistrement qui date de 1936. On a pu l'entendre, hein, évidemment.
Oui, un petit peu. C'est pas de la haute fidélité.
Voilà.
Mais c'est quand même très beau.
Absolument, c'est du Bach.
Voilà. Henri Gourdin, donc merci d'être avec nous pour évoquer votre nouveau livre. Alors, on va lever le voile quand même. Il est consacré au peintre Jean Hugo. Alors, dites-nous quelques mots sur ces dates et puis sa parenté quand même avec Victor Hugo. On ne peut pas ne pas en parler.
Oui, j'espère que Jean ne nous entend pas là où il est ou qu'il soit, parce que il est très attentif justement à se faire un prénom, on peut dire, et à se démarquer de Victor Hugo. Et c'est un élément. Bon, je vous remercie de m'interroger sur ce point d'emblée, parce que c'est un élément essentiel de compréhension de sa personnalité, de sa vie, de sa carrière de peintre et d'écrivain. de cette distanciation qu'il souhaitait prendre par rapport à son illustre ancêtre.
Et quelles sont ces dates, en fait ?
Il est né en 1894, donc d'ailleurs, il avait. Je démarre mon livre le jour pratiquement de ses 20 ans, donc il avait 20 ans en 14. Et il est mort en 1984, donc juste avant son 90e anniversaire.
Oui, une belle vie donc.
Une longue vie, voilà. et une très belle vie.
Oui, alors on en parlera peut-être un petit peu tout au long de l'émission, mais je suis sûr que nos auditeurs se disent, mais enfin bon, comment on peut consacrer une émission de radio à un peintre ?
Je me pose la question aussi.
Voilà, ben voilà. Alors vous allez le découvrir au cours de l'émission, parce qu'il se trouve que Jean Hugo, de même que sa première femme, Valentine Gross, ont eu beaucoup de relations avec de grands musiciens de cette époque-là. Et donc, on va évoquer ces musiciens, et en particulier Georges Auric, qui a été le fidèle ami de toute une vie. Et donc, je vous propose d'écouter de Georges Auric le premier mouvement du trio pour hautbois, clarinette et basson. Thank you.
Et voilà, nous écoutions ce premier mouvement du trio pour hautbois, clarinette et basson de Georges Auric. Georges Auric qui était donc un ami de Jean Hugo.
Voilà. Alors, ce Jean Hugo, donc, il a fait des études très classiques de lettres, notamment à la Sorbonne. Bon, ça lui a bien servi d'ailleurs après, puisqu'il a quand même écrit. Et puis, il a été mobilisé. Il avait alors tout juste 20 ans. Il a été blessé à la guerre en 1915. Et alors de cette période de la guerre, de 1917 exactement, date sa rencontre avec Valentine Gross, qui était peintre également, et il va l'épouser en 1919. Alors, moi j'aimerais savoir, Henri Gourdin, comment il en est venu à la peinture? Finalement, il avait fait des études de lettres. Comment il est venu à la peinture, Jean Hugo?
Alors, on reste d'ailleurs dans le fil de la question que vous me posiez précédemment sur la distanciation de Jean Hugo par rapport à son illustre ancêtre. Il se fait qu'il était beaucoup plus proche de sa famille maternelle que de sa famille paternelle. C'est ça, ses parents, bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais ses parents, donc Georges Hugo, petit-fils de Victor et Pauline Ménard d'Orient, se sont séparés assez rapidement, quelques années après sa naissance. Et Georges a disparu complètement de la circulation. Voilà, il a retrouvé, alors ça c'était déjà dans sa biographie, c'est un point assez colossal. Il a retrouvé son père à l'âge de 22 ans. Voilà. Et il a été éduqué principalement par sa mère et par sa grand-mère maternelle dans l'hôtel particulier des Ménard d'Orient à Auteuil, donc dans le 16e arrondissement de Paris. Et sa grand-mère, qui était vraiment la personnalité importante de sa jeunesse et de son enfance et de sa jeunesse, était très proche des milieux artistiques et musicaux. Casals avait ses entrées à la table de Madame de Aline Ménard d'Orient. Et les murs de cet hôtel particulier étaient couverts de peintures. Il y avait un Renoir, il y avait surtout elle était très proche d'Eugène Carrière, par exemple, dont il y a de très beaux tableaux ici au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Enfin voilà, donc c'est là qu'il a, dans l'entourage de sa grand-mère, qu'il a pris son goût et ensuite sa passion pour la peinture.
D'accord. Et alors, il a eu une de ses premières commandes pour la conception des costumes, je dis bien des costumes, hein, pas des décors,
oui, oui.
Du spectacle qui s'appelait Les Mariés de la Tour Eiffel. Alors, c'était quoi ce spectacle?
Ah, c'était une des toutes premières pièces de Cocteau. Mais en fait, Jean a connu Valentine dans l'entourage artistique de sa grand-mère. Et il se fait que Valentine, dont il est tombé très rapidement amoureux, était dans la mouvance de Cocteau. Elle était très très proche de Cocteau, d'Auric, etc. Toutes ces amitiés que Jean Hugo va conserver toute sa vie viennent au départ de l'entourage de Valentine.
Et alors, ces mariés de la Tour Eiffel, c'est Cocteau donc qui a été le responsable de ça, mais il s'est entouré de musiciens pour faire ça.
Oui, et puis alors c'est un peu anecdotique, mais il se fait que donc Jean et Valentine se sont connus à l'époque où Jean était encore dans les tranchées. Et un jour où Cocteau était chez Valentine, ce qui était à peu près tous les jours, il est tombé sur des dessins que Jean Hugo avait laissé traîner. Il était autodidacte, vous l'avez bien dit.
Oui.
Et il lui a laissé un mot en lui disant ces dessins sont magnifiques, il faut vous y mettre. Et donc, dans l'esprit de Cocteau, c'était particulier, il avait cet esprit Cocteau, passé directement du verbe à l'action. Il lui a dit, tiens, voilà, entre Valentine et vous, vous allez me composer les costumes des mariés de la Tour Eiffel.
D'accord. Alors, on écoute le début de ces mariés de la Tour Eiffel. Donc, c'est une partie qui a été écrite par Georges Auric également.
Thank you.
Voilà, nous écoutions le début des Mariés de la Tour Eiffel, écrit ici par Georges Auric, hein, avec l'Orchestre National de l'ORTF sous la direction de Darius Milhaud.
Continuons. Alors, en fait, on va revenir à la musique tout à l'heure, mais moi j'aimerais quand même que vous nous y expliquiez, Henri Gourdin, ça ressemble à quoi les peintures de Jean Hugo?
Déjà, vous parlez de peinture. Oui. Il était peintre, mais enfin un peu, d'ailleurs, comme la plupart de ses confrères de son époque, il s'est exprimé dans tous les supports, ou à peu près tous les supports possibles et imaginables, c'est-à-dire non seulement la peinture de chevalet, mais aussi l'illustration. Il a illustré 100 livres, tout de même, c'est énorme. Le vitrail, la céramique très peu. Mais bon, et donc c'est effectivement la peinture est un vecteur essentiel de son œuvre, et c'est une œuvre qui est très particulière, qu'on peut difficilement décrire parce qu'elle n'est qu'à lui. Il n'y a pas, on peut pas donner de référence ou de similitude. C'est toujours très simple, en tout cas. C'est une
oui, avec des paysages qui sont un petit peu à plat, on va dire.
Oui,
voilà, aplati. Il n'y a pas de 3D, on va dire.
Voilà. Ben, il a très peu parlé de son œuvre, parce qu'on y viendra certainement, mais le problème de Jean Hugo, en tout cas par rapport à la postérité, c'est qu'il était extrêmement, d'une modestie extrême, donc il était toujours réticent à parler de lui-même, ça a continué après sa mort, et donc on a très peu d'œuvres de lui. Il faut faire le tour du monde pour voir les quelques toiles de lui qui sont conservées dans des musées, de bons musées.
Mais... Et en France, on peut en voir où?
Oui, alors j'ai fait ce recensement, parce qu'il n'y a pas de catalogue raisonné non plus. Enfin, il est vraiment méconnu, on peut le dire. Et donc, dans les collections publiques, il y a 13 toiles de Jean Hugo au musée Fabre de Montpellier. Premier record mondial, mais talonné de peu par la fondation Barnes de Philadelphie, qui en a 12. Et ensuite, bon, après, c'est beaucoup. Tout de suite, on tombe à 3 toiles au musée, au très très joli musée PAB d'Alès, 2 au musée d'histoire et des beaux-arts de Narbonne, 3 au musée Paul Valéry de Sète. Enfin, voilà.
Voilà. On peut recommander effectivement à nos auditeurs d'aller voir s'ils passent dans la région. Mais je voudrais vous parler des vitraux rapidement. Vous avez produit un autre ouvrage sur les vitraux qui s'appelle Jean Hugo, maître du vitrail.
Je suis très content que vous en parliez, parce que c'était un peu un parcours du combattant, ce livre. C'était... Aujourd'hui, il est aussi difficile aujourd'hui que de son temps de parler et de publier sur Jean Hugo, pour des raisons diverses, on ne va pas entrer dans les détails. Mais donc, c'est un livre que j'ai porté pendant une dizaine d'années, et donc je suis très content finalement d'avoir pu mettre en librairie, à quelques mois d'intervalle, une première biographie de Jean Hugo et un premier livre sur un volet seulement de son œuvre, qui n'est sans doute pas le volet essentiel, mais qui est très représentatif, parce que, toujours en réponse à votre question, il y a une grande cohérence dans l'œuvre de Jean Hugo. Il y a différents supports, mais on retrouve les mêmes inspirations, même les mêmes coloris, donc dans les différents vecteurs de son œuvre.
Alors moi, je vous propose de rester quand même un petit peu avec ces Mariés de la Tour Eiffel. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la musique a été composée par 5 membres du groupe des 6, en l'occurrence Georges Auric, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Francis Poulenc et Germaine Taillefer, sachant que Louis Duret n'a pas voulu ou pas pu s'associer à la composition. Alors je vous propose d'écouter le quadrille qui, lui, a été composé par Germaine Taillefer.
Les Mariés de la Tour Eiffel, quadrille, par la musique de la garde républicaine, direction Paris.
Bravo.
Oh, bravo.
Bravo, 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 bravo. Vive la garde républicaine.
Oh, bravo,
bravo, bravo.
Thank you.
Voilà un autre extrait des Mariés de la Tour Eiffel ici, le quadrille composé par Germaine Taillefer et joué par l'Orchestre National de l'ORTF sous la direction de Darius Milhaud.
Alors, Jean Hugo s'est pas marié au premier étage de la Tour Eiffel, oui. Bien sûr, mais il est resté marié avec Valentine Gross une dizaine d'années. Et Valentine va lui permettre de se rapprocher de plusieurs musiciens. Bon, il faut dire qu'elle a vécu pendant quelques temps avec Edgar Varèse, donc ça a dû faciliter les choses.
Oui.
Et puis, donc, leurs trajectoires se sont séparées. Mais avant, dites-nous un peu, Henri Gourdin, comment était cette Valentine, finalement ?
Valentine, contrairement à Jean Hugo, était une artiste de formation. Elle avait fait une école de beaux-arts à Boulogne-sur-Mer, qui était sa patrie. Ensuite, les beaux-arts de Paris. Elle s'était fait connaître par des croquis qu'elle prit sur le vif des ballets de Diaghilev. Et donc, elle était vraiment, contrairement à Jean, qui lui a appris en allant copier les grands artistes au Louvre et en regardant faire sa femme, mais qui était beaucoup plus autodidacte que Valentine.
Oui. Et alors, donc, on disait qu'ils s'étaient mariés et ils avaient des témoins prestigieux.
Surtout Valentine, enfin prestigieux en tout cas,
aujourd'hui,
avec le recul du temps,
recul,
oui, c'était
voilà.
Tout même pour Valentine, c'était Cocteau et Satie. Mais attention, Satie qui était déjà un peu connu à l'époque, mais Cocteau qui était tout à fait inconnu, qui était au tout début de sa carrière, qui n'avait pas encore publié, bon, voilà.
Donc c'est vrai que nous, ça nous impressionne aujourd'hui, mais voilà.
Et par contre, du côté de Jean, là, c'était la grand-mère qui avait pris toute cette cérémonie en charge, qui s'était occupée de lui donner ses témoins, et c'était des gens qui étaient le fils du futur ministre du Travail. Ah, enfin, oui. C'était des gens plus du côté de la politique, parce qu'Aline, on en parle, on ne peut pas en parler en détail, mais enfin, ce qui est un côté qui m'a fasciné, moi, dans la vie de Jean Hugo, c'est que lui-même était un personnage. D'ailleurs, si vous regardez par rapport à mon catalogue, je crois que Jean Hugo est peut-être, à mon sens, une personnalité, moi, personnellement, je dirais plus attachante que Jean-Jacques Audubon, que Pablo Casals, dont j'ai fait la biographie avant. C'est une très grande personnalité. Et autour de lui, il y a aussi des gens comme Cocteau, comme Milhaud, comme sa grand-mère Aline, qui vraiment, en entrant dans la vie de Jean Hugo, on croise tout le temps des personnages absolument fabuleux, oui. Quoi.
Alors, on a parlé de Satie, donc je vous propose d'écouter des extraits de Parade, qui est un ballet qui a été composé en 1917, mais je vous propose une version un peu inhabituelle pour deux pianos.
Voilà quelques extraits à l'instant de Parade, un ballet d'Éric Satie, joué ici pour deux pianos par Dominique Merlet et Jean-Pierre Armingaud. Nous sommes toujours en direct jusqu'à 15h pour cette émission avec Henri Gourdin, auteur de plusieurs livres sur Jean Hugo, Jacques Nouvier.
Alors Jean Hugo était l'ami de plusieurs peintres, en particulier de Picasso. Picasso qui lui disait « Tu ne fais rien pour ta gloire ». Et Picasso, il s'y connaissait là-dedans. Et je crois qu'il avait raison, Henri Gourdin. Vous ne faites rien pour votre gloire, vous non plus, finalement. Sauf venir sur RCF.
Sauf venir sur RCF, c'est ce que j'allais dire.
Mais par contre, Jean Hugo, il ne faisait vraiment rien pour sa gloire.
Ah oui, là, et puis, ça, c'est, cette parole de Picasso, ça se situe un peu plus tardivement dans sa carrière. Donc, il avait déjà une œuvre assez considérable derrière lui. Jean Hugo, je parle de Jean Hugo, là. Et bon, c'est assez représentatif de l'antinomie entre les deux peintres, puisque autant Picasso, c'est bien connu, était très attentif et très actif autour de sa gloire, autant Jean Hugo, par tempérament, et peut-être, alors ça on revient peut-être là sur sa distanciation par rapport à son grand ancêtre. Là, il a été invité très tard, donc 6 mois avant sa mort, il a été invité par Bernard Pivot. Et donc, il était un peu l'invité vedette de l'émission. Et d'ailleurs, c'est une émission qu'on peut revoir assez facilement. Et Pivot lui demande, mais Jean Hugo, descendre de Victor, tout de même, ça n'a pas dû être facile. Et Jean Hugo a ce mot. Il dit, non, il dit, mon père, ça l'a anéanti.
Ah, oui.
Et donc, il se méfiait de la gloire. Voilà, il se méfiait de la gloire.
Ouais. Alors moi, je voudrais évoquer un petit peu tout ce qui tourne autour de Picasso, et notamment Manuel de Falla avec Le Tricorne, qui est un ballet de Léonide Massine. Alors, le rideau de Sèvres, le décor et les costumes ont été créés par Picasso en 1919 pour les ballets russes de Serge de Diaghilev. Et je vous propose d'en écouter un extrait, « La danse du meunier ».
Thank you.
Et nous écoutions un extrait du Tricorne, de mise en musique ici par Manuel de Falla.
Alors, 1929 est une date très importante dans la vie de Jean Hugo, puisqu'il quitte Paris et il s'installe à Lunel, dans le sud de la France. Et pourquoi cela ?
Parce que la grand-mère dont nous avons tant parlé, Aline Ménard d'Orient, décède et lui lègue un masque qu'elle tenait de famille dans l'Hérault, aux frontières, aux lisières de la petite Camargue. Et donc, Jean était déjà, depuis quelques années, dans une phase de réflexion sur lui-même. Il pensait que cette vie très mondaine qu'il menait à Paris, finalement, ne lui correspondait pas profondément. Et donc, il a saisi cette occasion. Il a complètement tourné la page parisienne de son existence, sauf les amitiés qu'il a gardées toute sa vie. Et il a quitté Valentine, il a quitté Paris, il est venu s'installer dans ce masque, qui était un masque viticole qui existe toujours aussi, qui est aujourd'hui, qui est toujours dans la famille. D'ailleurs, les premières fois où j'y suis allé, vous poussez la grille du masque de Fourques à Lunel, vous entrez dans le 19e siècle. Quoi. C'est resté dans son jus, tout à fait.
Et ça a changé son inspiration, là, le fait de se transporter de Paris à Lunel ?
C'est-à-dire que ce déplacement géographique à Lunel s'est doublé aussi d'une conversion. En tout cas, non, il était agnostique au départ, non baptisé. Mais au terme d'un parcours spirituel assez douloureux d'ailleurs, à travers des rencontres avec Jacques et Raïs Samaritain, avec le père Rzewiski, etc. Bon, il en est arrivé à trouver sa voie dans la chrétienté, dans une piété d'ailleurs assez quotidienne. Et donc ça l'a transformé, oui, vraiment. Quand on dit, c'est une expression, on tourne la page, mais pour Jean Hugo, vraiment, il y a deux pages dans sa vie. Il y a la page jusqu'en 1929 et ensuite à partir de 29.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a des musiciens, des amis en général qui sont venus le voir, et en particulier Georges Auric qui est venu quasiment tous les ans.
Georges Auric et sa femme, tous
les deux. Et donc, je vous propose d'écouter de Georges Auric donc le premier mouvement de la sonate pour violon et piano.
Thank you.
Nous écoutions à l'instant le premier mouvement de la sonate pour violon et piano de Georges Auric, donc joué par le violoniste ici Gérard Poulet et par le pianiste Christian Ivaldi. C'est un disque publié chez Arion.
Alors, en 1932, Jean Hugo divorce de Valentine. Et donc, ils divorcent, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Et puis, il va se remarier beaucoup plus tard, en 1947, hein, il a alors plus de 50 ans, avec Loretta Hope Nicholson. Et là, ensemble, ils vont avoir 7 enfants, 2 garçons et 5 filles. Alors, comment se passe la dernière partie de la vie de Jean Hugo, qui va mourir, vous le disiez tout à l'heure, à 90 ans ou presque?
Oui, il est dans son mas de Lunel, là. C'était un mas viticole qui était extrêmement prospère du temps de ses grands-parents et qui a périclité, il faut le dire, de son vivant à lui. D'une part parce que, comme gestionnaire, il était moins bon en gestion de vignes qu'en peinture et en écriture, parce qu'on n'en parle pas assez, mais Jean Hugo, c'est un point de vue que je défends dans mon livre, était peintre-écrivain. Il était peintre, il était écrivain, il était surtout peintre-écrivain. Enfin, ça, on y reviendra peut-être. Et donc, il vous aurez remarqué qu'il est arrivé à Lunel en 29, il a épousé Loretta en 47. Donc là, il y a 20 ans de à peu près de célibat et puis 40 ans de vie commune avec Loretta, c'est un très bel amour d'ailleurs, avec leurs 7 enfants. Mais je dirais que la charnière dans la vie de Jean Hugo, c'est tout de même les années 29-30 avec son départ de Paris, et qu'il y a une continuité avant Loretta, après Loretta, tout ça. En tout cas, au niveau de son œuvre, de sa personne, de sa personnalité, l'arrivée de Loretta n'a pas marqué une charnière dans sa vie.
Mais Loretta, elle était peintre, elle était musicienne.
Oui, elle avait une grande culture artistique. Elle était un peu peintre, enfin, sans plus. Et en fait, elle est arrivée à Lunel parce qu'elle a rencontré une amie commune, disons les choses comme elles sont, une maîtresse de Jean Hugo,
oui,
à Londres. Elle était toute jeune, Loretta, elle avait 17 ans. Elle lui dit qu'elle aurait aimé aller rencontrer des artistes en France. Bon, mais donc, on l'a envoyé chez Jean Hugo, qui a fini par aller assez rapidement, en est tombé amoureux. Et puis, c'était un amour réciproque, hein, très, 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 très beau d'ailleurs. Wow. Et donc, ils se sont mariés et puis ils ont eu cet enfant-là.
Alors, on va rester encore un petit peu avec Georges Auric, hein, le fidèle ami dont je parlais tout à l'heure. Alors, Georges Auric va mourir un an tout juste avant Jean Hugo. Alors, je vais vous proposer de la musique de film qui a été une part très importante de l'œuvre de Georges Auric. Il a composé pas moins de 120 musiques de film, dont La Grande Vadrouille, hein, pour fixer un peu les idées. Alors, je vous propose d'écouter La Bataille, qui est extraite de la suite tirée de la musique César et Cléopâtre. C'est un film britannique qui est sorti en 1945.
Et toujours le compositeur Georges Auric hein, sur RCF avec cette suite extraite de la musique du film César et Cléopâtre. Et on arrive déjà à la fin de cette émission, Jacques.
Ah oui, il y aurait des tas d'autres questions à vous poser, Henri Gourdin. Mais déjà, le titre de votre dernier livre, Jean Hugo, Un pays selon mon goût, qui est paru aux éditions de Paris. Mais pourquoi ça s'appelle comme ça?
Alors, les auditeurs auront compris que Jean Hugo était un homme extrêmement modeste et qui parlait très peu de son œuvre. Bien qu'étant écrivain, il y a des centaines de pages, les mémoires de Jean Hugo parues chaque Lectus, il y a à peu près pas loin de 1000 pages. Mais dans ces 1000 pages, il n'y a rien sur son œuvre. Son point de vue, c'était que pour découvrir un peintre, il faut regarder ses tableaux, ses illustrations, etc. Cependant, dans ces 1000 pages, j'en ai extrait ce passage que je donne en exergue de mon livre qui est « Je me suis composé un pays selon mon goût où je situais mes tableaux ». Et donc là, il y a quelques lignes, c'est pas très long, mais donc ça situe bien, mais dans sa concision, ce tout petit texte situe bien l'esprit dans lequel il composait et dans lequel se situe toute son œuvre, c'est-à-dire de figurer un pays bien à lui et qui n'est vraiment qu'à lui.
Et il y a certains paysages très simples, mais très beaux aussi, qui figurent dans ses toiles.
Tout à fait. Puis vous parlez paysage parce que vous parlez toile là, mais comme on le disait tout à l'heure, si vous regardez ces vitraux, si vous regardez ces illustrations, on retrouve toujours les mêmes coloris, les mêmes sources d'inspiration, la même simplicité. Enfin, il y a une grande cohérence dans cette œuvre aussi.
Alors le bouquin dont on a parlé tout à l'heure sur l'art du vitrail, c'est aux éditions Lou Battière et c'est toujours vous, Henri Gourdin, qui l'avait fait. Et puis, je voudrais aussi signaler votre site internet, Henri Gourdin, www.henrigourdin.com. Et là, c'est un site où on trouve des quantités de renseignements sur tous les livres que vous avez écrits. Donc, en même temps, bon, sur Jean Hugo, bien sûr, mais aussi sur les violoncellistes que vous avez traités. C'est vraiment un site où on apprend des tas de choses en le lisant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment une super idée.
Vous savez, moi, je pense que mon objectif, ce n'est pas de mettre un livre en librairie et de percevoir des droits. Mon objectif, c'est de faire connaître Pablo Casals, de faire connaître Jean Hugo. Et bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a un auteur où on doit utiliser tous les vecteurs qui sont à sa portée. Donc, un site internet, c'est le complément du livre.
En tout cas, merci parce que c'est très utile pour nous tous.
Merci beaucoup. Et je mettrai le lien sur la page de l'émission.
Parfait. Alors, je voudrais vous remercier, bien sûr, Henri Gourdin, d'être venu dans nos studios pour parler de Jean Hugo, ce qui nous a permis d'avoir une meilleure connaissance de ce peintre, écrivain, enfin, toutes sortes de qualificatifs. Et puis, vous avez peut-être remarqué qu'on a beaucoup utilisé la musique de Georges Auric, et je pense que c'était bien qu'on puisse faire mieux connaître ce compositeur du groupe des Six, qui n'est finalement sans doute pas assez connu, en tout cas pas comme il le mériterait.
Voilà. Georges Auric, qui était très actif aussi, c'est encore moins connu, mais au niveau syndical, dans les assemblées, dans la représentation des musiciens, il s'est énormément dévoué.
Mais il a des tas de cordes à son arc, si je puis dire. C'est lui qui a dactylographié, par exemple, le bal du comte d'Orgel de Raymond Radiguet. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de multiforme, mais il faudrait une émission complète. On y viendra peut-être.
Alors, écoutons Georges Auric pour terminer cette émission.
Thank you.
Voilà le début du premier mouvement de la sonate en fa pour piano de Georges Auric, joué par la pianiste Marie-Catherine Giraud. Merci beaucoup Henri Gourdin d'avoir participé à cette émission pendant une heure et merci Jacques.
Et à bientôt.
À lundi.
À lundi c'est ça, exactement.
Pour de nouvelles aventures. Bonjour Bruno Fuma.
Bonjour Melchior Gormand.
On vous retrouve entre 15h et 17h.
Eh ben oui, comme chaque après-midi, c'est devenu une tradition. Dans un instant, à découvrir le quatrième volet de notre halte spirituelle, Monseigneur Pierre Clavry, assassiné en Algérie en 1996, qui sera béatifié samedi prochain. Une vie donnée pour le dialogue, c'est le thème abordé par Véronique Elzieux et son invité dans Halte spirituelle.
Merci Bruno, à demain, midi 30, 15h. Et merci à Philippe Faure qui a réalisé cette émission.